talmudique. Un des plus beaux et des plus énigmatiques livres de la Bible est celui de Coëlette, l'Ecclésiaste, c'est-à-dire celui qui parle à la foule. Or, cet homme, à qui la tradition donne le visage du roi Salomon, que dit-il à la foule? Il leur parle de sagesse, de l'amour, de la peine et de la joie, mais surtout du temps. Il y a un moment pour tout, dit-il, et un temps pour chaque chose en dessous du ciel. Mais qu'est-ce que donc le temps? Demandait saint Augustin dans ses confessions. Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Interrogation particulièrement importante aujourd'hui, car le confinement que nous avons vécu et que nous vivons encore est à la fois une expérience de l'espace, mais aussi et peut-être surtout du temps, un temps individuel et social, ressenti comme bouché, bloqué, figé, déstructuré, temps sans horizon, induisant une sidération des esprits selon une formule que j'emprunte à Serge Éphèse. Nous sommes entrés dans une cacophonie rythmique généralisée où chacun se situe dans une temporalité différente tout en devant continuer à vivre dans un temps imposé, celui du travail, de l'école et des institutions. Et dans ce contexte, on comprendra mieux le sens des propos du président Macron lors de sa dernière allocution qui ont donné des formes concrètes à cette question du temps en donnant un calendrier précis avec des échéances, des repères, des jalons, créant une chronologie claire, une façon d'aider à dissiper les angoisses sourdes liées à l'incertitude. Pouvoir saisir le temps, le prendre, le comprendre, sans que cette notion complexe soit réservée aux classes de philosophie ou aux philosophes de profession, est un enjeu essentiel dans le monde en train de se reconfigurer dans lequel nous sommes entrés. Il faut que chacun puisse trouver les outils pour s'approprier le temps, son temps, un temps humain propice à la vie, à la construction de soi et de la société. Comment prendre le temps sans être pris par lui? Voilà une question essentielle. Et pour nous aider à y voir plus clair, quoi de mieux qu'un expert qui, depuis de très nombreuses années, s'est particulièrement penché sur tous ces problèmes et a interrogé les enjeux fondamentaux de la temporalité humaine, de ses impasses, mais aussi de ses issues. Daniel Siboni, bonjour.
Bonjour.
Daniel Siboni, vous êtes docteur en mathématiques, docteur en philosophie, psychanalyste et lecteur et interprète des textes bibliques. Vous avez travaillé cette question du temps dans les différents domaines que je viens de citer et j'ai l'impression que cette transversalité des savoirs est particulièrement précieuse pour aborder cette réflexion sur le temps, ce dont témoigne la parution de votre dernier ouvrage intitulé judicieusement « À la recherche de l'autre temps » préfacé par le mathématicien Alain Cohn. Qu'est-ce que l'autre temps, Daniel Siboni? En quoi diffère-t-il d'un temps nouveau, d'un temps d'après par exemple? Autre temps, autre par rapport à quoi, par rapport à qui?
En effet, j'ai intitulé mon livre « À la recherche de l'autre temps », mais cet autre temps, ce n'est pas un objet totalement mystérieux. Bien sûr que si des personnes pensent à l'autre temps que celui qu'elles vivent, eh bien, c'est cet autre temps. Ils s'intègrent dans cette recherche. Si même certains pensent à un temps, un événement qui serait la délivrance, la révolution, la rencontre amoureuse idéale, eh bien, oui, c'est un autre temps. L'autre temps, en effet, il a mille formes. On est toujours entre, par exemple, le présent et le passé, ou le présent et le futur, entre le temps perçu comme actuel et le temps possible qui relève d'un autre espace. Et c'est le lien entre les deux qui sera vécu temporellement. Après tout, vivre une durée, c'est s'accrocher à une chose et se mettre à compter à tous les sens du terme, penser, écrire, s'affirmer, jouir. D'ordinaire, on confie le comptage à la montre ou à un tiers qui compte, et quand c'est fini, on prend acte du temps vécu avec cette chose ou en sa compagnie. La vie se passe souvent à chercher la chose ou l'être qui mérite qu'on s'y accroche pour compter de façon intéressante, mais la formule que j'en ai dégagée, c'est que le temps n'existe que si on le prend. Et on prend le temps avec un objet très très précis et en même temps très riche, mystérieux, c'est l'événement. On prend le temps par l'événement et la durée qui s'ensuit. Sinon, bien sûr, le temps peut couler tout seul et sombrer dans les emplois du temps. Mais nous avons, en général, même presque toutes, des façons plus vivaces de prendre le temps, c'est-à-dire de l'arracher aux durées monocordes, pour le sentir, le respirer, l'habiter. Mais il faut déjà créer la prise. Et on crée nos prises de temps par les événements que l'on vit, qui nous engagent physiquement dans une histoire, une durée, et non pas par ceux auxquels on assiste, où l'on suit sur un écran le temps de l'autre jusqu'à l'ennui. Au contraire, l'événement que l'on crée et qu'on partage dans la rencontre nous ouvre un autre temps, car la rencontre nous donne du corps de l'autre et projette sur lui une part de notre corps. Voyez la rencontre amoureuse, amicale, la rencontre féconde entre deux chercheurs, etc. Et puisque vous avez évoqué le temps que nous vivons, je trouve qu'il et cette période ravage sournoisement notre rapport au temps parce qu'elle nous prive de l'événement. Mais ce dont on est privé, c'est d'une prise de temps essentielle qui s'appelle l'événement. Et cette situation nous coupe l'événement à la racine puisqu'on est enfermé, reclus et qu'on ne rencontre plus. Il n'y a plus qu'un événement, c'est l'enfermement. L'effet de cisaillement du temps pour des peuples entiers, c'est ça qui est fantastique, qui sont privés d'événements, de rencontres, réunions, fêtes, présentations d'œuvres, échanges en présentiel, comme on dit, c'est un mot cruel qui rappelle que la vraie présence est laminée. J'aimerais citer une référence biblique qui n'est pas exactement l'Ecclésiaste, mais qui est le psaume 19, qui a été un de mes stimulants dans l'écriture de ce livre. Et je peux le dire, le début en hébreu.
Nous vous écoutons.
Hashamayim mesaprim kevodel. Les cieux racontent la gloire divine. Uma aseyadav yagidarakia. Et les gestes de ses mains, c'est-à-dire de ce qu'il fait, de ce qu'il fabrique, le firmament en donne la narration. Pourquoi je vous cite cette phrase? Parce que des physiciens disent avec raison, attendez, si vous dites que le temps, c'est ce que nous percevons, etc., quel est le statut que vous donnez au temps d'avant l'apparition de l'humanité? Le cosmos existe depuis des milliards d'années, et l'humanité, c'est apparu, c'est de l'ordre du million. Et donc, est-ce qu'il n'y avait pas de temps avant? Et je trouve que cette phrase, avec une poésie lumineuse, elle dit qu'il y avait du temps, bien sûr, avant que nous arrivions sur Terre, et que ce temps, c'est les histoires que se racontent les planètes quand elles s'envoient des informations sur leur mouvement, sur leur composition, etc.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le temps est lié à la narration. On rejoint des intuitions que l'on trouve chez Paul Ricoeur, par exemple, quand il parle de l'identité narrative, c'est-à-dire que nous nous construisons dans le temps parce que nous racontons des histoires, et on retrouve cette idée aussi chez Hannah Arendt. Mais puisque vous avez cité un texte en hébreu, je voulais rappeler qu'il y a, et vous le savez puisque vous en parlez dans votre livre, qu'il y a deux mots différents pour dire le temps. Il y a le mot « zeman » et le mot « et ». J'ai l'impression, Daniel Siboni, que cela rencontre votre manière de penser l'autre temps.
Alors, par rapport à la narration, et puisque vous citez Ricoeur, bien sûr que son idée est juste, mais quand je dis qu'on prend le temps en fixant un événement, ou en subissant un événement, ou en accueillant un événement, et ensuite en comptant, c'est-à-dire, on compte pas un, deux, trois, on compte, on fait des choses qui comptent pour nous et pour d'autres. On fait des choses à travers lesquelles on peut compter. Et donc le récit, la narration, c'est un déploiement de l'acte de compter. Donc ce n'est pas, c'est mon approche inclut évidemment la narrativité de Ricoeur, mais c'est plus vaste. C'est, vous savez, Mallarmé parle d'un conte total en formation dans son poème,
oui.
Dans son poème Un coup de dé sur le hasard, c'est-à-dire c'est nos façons d'amener notre créativité et pas seulement de raconter nos histoires. Nos histoires, elles sont à transmettre, c'est clair, mais on prend le temps en se branchant sur un événement. Évidemment, il faut qu'il y ait l'événement. Et à partir de là, des durées apparaissent. Et pour moi, par exemple, dans la rencontre entre deux individus que je vous évoquais, puisqu'on en est privé, eh bien, la rencontre, ça vous donne le corps de l'autre. Et le corps de l'autre, c'est un potentiel de manière de compter, de manière de dire des choses qui comptent, et pas seulement de manière de raconter son histoire, encore que son histoire peut être tout à fait passionnante. Donc l'acte de s'accrocher à un événement et de dérouler des comptages divers, c'est un défi. Pourquoi ? Parce que ça réfère à des choses fantastiques comme poser un commencement. C'est là aussi qu'on peut revenir, si vous le voulez,
oui,
au récit de la Genèse qui pose cette idée d'une manière superbe, qui dit, voilà, avec l'idée de commencement, le monde se crée, et il nous parle de toutes sortes de divisions, de coupures, mais déjà, le premier jour, c'est l'apparition de la lumière, et aussitôt, il compte jour 1. Et ensuite, il se passe des choses, des événements, des coupures, des fractures, etc. Et puis c'est jour 2. Et ainsi de suite, jusqu'au jour 6, qui laisse un suspens et qui confie la suite de la création aux créatures humaines avisées pour qu'elles prolongent la création, donc qu'elles prennent le relais de ce conte, qu'elles se débrouillent pour compter, pas seulement compter des sous et compter des avoirs, mais compter des prélèvements dans l'être, donc des rapports à l'être, en tant qu'il est l'infini des possibles, donc en tant qu'il permet qu'on greffe dessus des comptes nouveaux.
Oui.
Et c'est magnifique parce que, en même temps, ça rejoint des intuitions de la physique. J'ai beaucoup discuté avec mon ami Alain Cohn, qui est mathématicien,
oui,
et qui fait les maths pour la physique quantique.
Oui.
Et un jour, on s'est mis d'accord sur le fait que, parce qu'on parlait de, vous savez, quand vous envoyez un électron, hein, ou une particule quelconque à travers un trou avec une bonne dimension cohérente avec la longueur d'onde, et que vous recueillez sur une autre plaque les impacts de ce jet, eh bien, l'impact, il est vraiment indéterminé. Vous pouvez mesurer des probabilités, mais vous ne pouvez jamais reproduire cette expérience. Autrement dit, elle vous donne une idée de ce que c'est l'infinie variabilité du monde, de l'être, et c'est à partir de là que j'avais dit, eh bien voilà, ça, c'est en résonance avec mon approche de l'être comme infini des possibles. Cette expérience vous en donne une petite image.
C'est ce que Alain Cohn disait, et vous le citez, vous dites l'aléa du quantique et le tic-tac de l'horloge divine.
Ben oui, c'est magnifique, parce que ça veut dire que, et c'est toute l'idée qui traverse mon livre, c'est explorer les possibilités de faire émerger du temps. Je trouve que, du point de vue existentiel, ce à quoi on est confronté, c'est à la possibilité de faire émerger dans des situations des temporalités repliées.
Oui.
Et pour répondre à votre question sur le Zman,
oui.
Ce que j'aime dans les deux termes pour désigner le temps, qui sont Aet et Zman, Zman, il comporte en lui-même une mise en mouvement, parce que quand on, sur la même racine, on dit Zamin, ça veut dire c'est disponible, les Azmin, c'est invité, autrement dit, c'est une temporalité qui invite l'un et l'autre à prendre place, à poser leur présence dans l'espace-temps que la physique explore encore, et elle en a pour longtemps. Donc, et c'est une invitation à prendre place dans le disponible pour produire une rencontre ou prendre acte d'une rencontre intéressante. Et j'aime encore plus l'autre mot qui est « aet », qui dit le temps, et en effet l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose, pour tout désir. Il donne le mot « maintenant », « atta ». Et ça c'est très beau, parce que « atta », comme vous aimez les décomposer, c'est « aet », « aet hachem », c'est le temps de l'être. C'est-à-dire justement l'infini des possibles, dans lequel vous fixez, vous pointez un instant qui est celui-ci, « maintenant ». Mais en réalité, vous pointez un événement à partir duquel se pose la question, alors, quelle est la suite ?
Oui. Le temps ne serait-il pas aussi, et de manière essentielle, vous avez parlé d'invitation, l'invitation que le temps fait au temps lui-même, celui qui est impliqué, replié, en attente, en potentiel dans les choses, que vous définissez comme un objet-temps. Voilà un concept important de votre réflexion. Qu'est-ce que précisément un objet-temps, Daniel Siboni ?
Alors, un objet-temps, et j'en ai rencontré tellement que j'ai conceptualisé cette chose, déjà dans un livre qui date de 78, et je vais vous dire comment ça s'est imposé à moi. J'avais assisté à la naissance de mon premier enfant, et quand j'ai vu cet enfant jaillir du ventre de sa mère, je me suis dit, ça s'est dit dans ma tête, voilà le temps qui s'envole, qui prend son vol. C'est-à-dire, j'ai senti que émergeait un objet fantastique à partir de, qui était porteur de temps, et de son temps à lui. Et que nous, on allait se raccrocher avec des fils à ce temps de cet être vivant et radicalement nouveau qui a son autonomie relative. Donc un objet-temps, c'est un objet à partir duquel on peut, en communiquant bien, dérouler des temporalités diverses.
Ne le prenez pas mal, mais j'y crois pas du tout. J'ai toujours trouvé tout ce truc-là très très ridicule.
C'est quoi tout ce truc-là ?
Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile.
Oui ? Pourquoi vous êtes venu, alors ?
Oui, alors évidemment, je sais pas bien pourquoi je suis venu ici. Mais le problème, c'est que j'y crois pas du tout, quoi. Je trouve qu'il faut être sacrément naïf pour faire ça, non ?
Pour faire quoi ?
Ben pour y aller, raconter sa vie, sa petite enfance, avec tout le côté complexe d'Oedipe. Je suis très attaché à ma maman, est-ce que c'est grave, combien je dois, docteur ? Il y a un petit côté pathétique, non ?
Non.
Moi, je suis historien. Donc, dans mon boulot, on avance par traces tangibles.
Mmh. Je vous écoute. Si vous êtes venu ici, c'est que vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous parliez de traces tangibles. Essayez de me dire quelles sont les choses tangibles qui vous ont amené ici.
Alors j'ai un nouveau boulot depuis quelques semaines. Je fais un travail de vulgarisation pour la télévision. Et il y a quelques jours, j'ai complètement craqué. J'ai complètement craqué. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai peur maintenant. Voilà, j'ai peur. J'ai une angoisse que j'arrive pas du tout à analyser. C'est bizarre, hein. Je ne la comprends pas. J'ai passé mon... Excusez-moi. J'y arrive pas. complètement con de... Je me mets à pleurer comme un con.
En pleurant, vous venez d'admettre que vous avez une souffrance quelque part. Vous avez compris un truc très important.
J'ai compris quelque chose, là.
Oui. Vous venez de comprendre que l'inconscient, ça existe. Je viens de vous apporter une preuve tangible, comme vous dites. Quelque chose qui est arrivé récemment dans votre vie?
Non, à part mon nouveau boulot, là. Oui, oh, ouais. Non, mais là, vous allez vous foutre de ma gueule, là.
Ah, je suis pas là pour me foutre de vous. Alors, dites-moi.
Mais ça, peut-être pour qu'un rapport.
Non, mais, allez-y.
Mon père est mort il y a un mois.
Cédric Clapiche, le film s'appelle Paris, un film de 2008. C'est la scène du psy avec Fabrice Luchini et Maurice Benichou. Une scène d'anthologie pour les objetants. La psychanalyse serait un lieu particulièrement important pour réussir à prendre le temps et ne pas être pris par lui. Et pourtant, Daniel Siboney, de manière paradoxale, il y a une phrase importante de Freud qui dit que l'inconscient ne connaît pas le temps. Que signifie cette formule et comment la séance elle-même est un objet temps? On le sent intuitivement, mais il semble important d'y mettre des mots. Et j'aimerais que vous réagissiez, Daniel Siboney, à la séquence que nous venons d'entendre de à la fois dramatique, tragique et quelque part comique aussi.
Oui, c'est très émouvant et parce que on y voit d'abord le déni, non mais c'est idiot, j'ai rien à dire, etc. Et puis à mesure que grâce à l'analyste, le sujet s'engage un peu plus dans la parole, bah, il trébuche sur des icebergs énorme, la mort du père, il est venu et parler du père, parler de, ben de son histoire, et pas de papa-maman, comme on dit. Et donc, la séance, on le voit bien, c'est un lieu où, c'est un lieu de prise de temps, où on essaye d'accéder à du temps qui est là, replié, et dans l'inconscient, oui, on peut le dire. Mais la phrase de Freud ne gêne pas dans ce contexte, parce que Freud, avec cette phrase, il fait seulement un constat. L'inconscient ne connaît pas le temps. Ça veut dire que des traces d'histoire, d'affect, d'événements infantiles inscrits dans l'inconscient, eh bien, on les retrouve 40, 50 ans plus tard intactes. Et le sujet les revit avec les mêmes émotions, les mêmes larmes qu'il les avait vécues avant et puis refoulées, elles se sont perdues. Et donc, c'est le fait que l'inconscient ne connaisse pas le temps n'empêche pas que c'est en transitant par l'inconscient que les courbes et les trajets de durée, etc., se rechargent de temps. Parce que ce monsieur, il va pouvoir parler de tout. Vous savez, un homme qui parle des rapports avec son père, c'est carrément, c'est le rapport avec le temps, non seulement avec le nom, on parle beaucoup du nom du père, mais le corps du père est aussi important que le nom. Donc, une bonne séance d'analyse, c'est une prise de temps qui passe par l'inconscient et qui repart en mode ouvert. Parfois, elle revient au point de départ, mais un cran au-dessus, avec une autre vue sur les empêchements évoqués qui se retrouvent plus ou moins dégagés.
Alors, ce que vous venez d'expliquer, c'est que le temps que l'on dit inexistant dans l'inconscient est une forme de réserve. Quelque chose cherchait à s'exprimer, mais ne le peut pas. Et tout à coup, dans la séance, il y a cette expression, ce branchement sur l'être, dites-vous. Mais j'ai l'impression que ce non-temps de l'inconscient peut avoir aussi un sens encore différent. Vous usez la formule « l'amour aussi ne connaît pas le temps ». Quel sens donnez-vous à cette formule « l'amour aussi ne connaît pas le temps »
Ben, c'est très simple. Imaginez deux êtres qui se sont aimés intensément et qui se sont quittés, qui se retrouvent 40 ans plus tard et ils sont émus et assez surpris de voir qu'ils retrouvent leurs sentiments intacts, comme s'ils venaient de se quitter. Et ça veut dire que, bien sûr, ils ne sont pas forcément prêts à reprendre cette histoire, mais ils sont en position de la ressentir comme si le temps n'avait pas passé. Et c'est d'ailleurs ce qui les émerveille.
Émerveillement de l'amour, il y a aussi les œuvres d'art qui nous émerveillent. Ce sont des objets temps particuliers, en quelque sorte des conservatoires de temps, comme je viens de le dire, pour l'amour ou la psychanalyse. Les artistes, Daniel Siboni, n'ont-ils pas un rôle à jouer, en particulier en cette période de confinement et de pandémie, où tout semble se refermer sur soi-même?
Absolument.
En quoi l'œuvre d'art est un objet temps qu'on peut déployer, mais qui est d'autant plus nécessaire aujourd'hui?
Vous savez, il y a des choses, la plupart des choses, prennent du temps. Et il y a aussi des gens qui vous prennent votre temps. Et une grande partie de l'humanité prend le temps de l'autre partie à son profit, pour son pouvoir, etc. Donc il y a des choses qui, et des êtres qui prennent du temps. Mais il s'agit de trouver des choses qui en donnent, qui donnent du temps, qui en offrent, qui le transmettent comme du possible. Et une œuvre d'art, elle transmet un bouquet de temporalité. Elle transmet le temps où elle s'est faite, l'époque, le temps qu'a duré sa production, le temps de l'histoire, entre guillemets, qu'elle raconte, même si c'est une peinture abstraite, elle donne un espace, donc un rythme, une temporalité. Autrement dit, et les artistes sont des donneurs de temps, et ils offrent du temps frais à qui peut le prendre. Vous savez, dans la vie, vous travaillez dans votre bureau, à votre atelier, etc., vous sortez, vous promenez, on en a été privé, et rien que de voir les corps des gens évoluer, ça vous donne une respiration, un souffle de temps. Et bien, si vous allez dans une expo avec des œuvres fortes, des œuvres qui ne sont pas forcément renversantes, mais des œuvres qui ont une certaine intensité, et bien, vous respirez. Ça veut dire que ça vous donne un afflux de temps possible, et si vous faites attention, vous voyez que ça vous donne un afflux de créativité. C'est pas que vous allez vous aussi faire cette œuvre ou en faire une autre, c'est pas obligé, mais ça vous en donne, ça vous branche sur la création. Et encore une fois, les premières lignes de la Genèse sont formidables de ce point de vue. Parce que l'acte créatif est chaque fois doublé d'une émergence d'une grosse unité de temps qui s'appelle une journée divine.
Alors en vous écoutant, vous avez parlé aussi à l'instant de voir le corps des personnes qui évoluent et l'œuvre d'art. Et je pense à cette vidéo que de nombreux auditeurs ont certainement vue sur la toile. L'on voit une dame en fauteuil roulant dans une maison de retraite et visiblement atteint de troubles cognitifs. À l'écoute de la musique du lac des cygnes qu'un soignant lui fait écouter, elle commence à danser avec ses bras et refaire très précisément et avec grâce la chorégraphie qu'elle avait sans aucun doute apprise et dansée il y a plus d'une soixantaine d'années. On croit savoir que c'est une danseuse étoile. Le corps se souvient, et je pense à cette phrase que vous écrivez, Daniel Siboni, une très belle phrase, « Le corps de l'autre est le plus bel objet porteur de temps. »
Oui, et c'est formidable, parce que et moi j'ai vu par exemple des malades Alzheimer au musée Rodin qui apportaient de petites sculptures, ça constituait une grande œuvre, une porte, et j'ai vu une dame réellement pointée comme Alzheimer, qui parlait de la manière dont elle avait fait cette œuvre, et c'est extraordinaire parce que elle oublie donc tout le passé récent, enfin tout ce qui vient d'arriver, mais elle a des souvenirs d'une finesse et d'une précision de l'époque qui s'évoquait pour elle pendant qu'elle faisait cette œuvre. Donc ces personnes ont accès à des gisements de temporalité qui attend d'être exploité. Et l'idée de création ou la mise en présence d'une œuvre d'art est un événement qui déclenche le déroulement de ces petites durées insoupçonnables et qui peut même déclencher des choses inconnues du sujet qui ne sont pas, qui n'ont pas été refoulées, qui étaient là dans l'inconscient pur et qui attendaient d'être rencontrées.
Merci Daniel Siboni pour ces passionnantes réflexions que je vous propose de poursuivre la semaine prochaine. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé aujourd'hui, « À la recherche de l'autre temps » aux éditions Odile Jacob, avec une préface d'Alain Cohn, un livre qui, comme dit justement Alain Cohn dans sa préface, ouvre grande les portes de la pensée en devenir. Merci encore Daniel Siboni.
Merci de votre écoute.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wacknin, à la prise de son aujourd'hui Édouard Rubinstein, à la réalisation Doria Zénine. Koltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.